Chapitre 6. Deux solis et un duo. Le soir qui précéda le mariage, Frank Cross et son garçon d'honneur, Repton Hale, dînèrent au club Raleigh avec le frère de Maud, Jack Selby, jeune lieutenant dans un régiment de hussards. Jack était un jeune sportsman qui avait la tête pleine de chevaux et de slang. Sans se préoccuper le moins du monde de l'avenir qui s'offrait à Frank en ce monde, il avait accordé son entière approbation au projet de mariage dès qu'il avait su que son futur beau-frère avait joué pour le second serret. « Que pouvez-vous désirer de plus ?» dit-il. « Vous ne serez pas tout à fait une mistress WG, mais vous serez sur la limite du cricket de première classe. » Et Maud, tout en joie de se voir approuvée par lui, sans en bien comprendre les motifs, l'embrassa et l'appela le meilleur des frères. Le mariage devait avoir lieu à 11 heures dans l'église de Sainte-Monique. Les Selby étaient installés au Logan Hotel et Frank était descendu à l'hôtel Métropole. Repton Hale fit comme lui. Ils se levèrent de bonne heure, la tête et les nerfs un peu fatigués, des suites de l'hospitalité que leur avait offerte la veille Jack Selby. Frank ne voulut pas déjeuner. Il lui déplaisait de se montrer en public dans ses habits de noces. Ils restèrent donc dans le salon d'en haut. Debout devant la fenêtre, il tambourinait des doigts sur la vitre et regardait vers l'avenue de Northumberland. Il s'était souvent représenté ce jour-là. Il en associait l'idée avec un beau soleil, des fleurs, tout ce qui symbolisait la joie. Mais la nature ne s'était pas mise en frais. Un brouillard compact, composé de fumée et de buée, emplissait la rue. Une pluie fine et persistante tombait sans interruption. Elle fouettait les vitres, éclaboussait les appuis des fenêtres, gargouillait dans les chéneaux. Bien loin au-dessous de lui, sur la chaussée gris foncé, s'allongeaient les rangées de cabs mouillés, semblables à des coléoptères au dos luisant. Les ronds noirs des parapluies se mouvaient rapidement sur le pavé brillant. Un cheval s'était abattu à la porte du club constitutionnel et un policeman, vêtu de toile cirée, aidait le cocher à le relever. Frank le contempla jusqu'à ce que l'animal eût été réharnaché et eût disparu dans Trafalgar Square. Alors il fit demi-tour et s'examina dans la glace. Son habit noir de bonne coupe et ses pantalons gris-perle faisaient bien valoir sa tournure athlétique et alerte. De même, son chapeau reluisant, ses gants nuance lavande, sa cravate bleu foncé étaient absolument irréprochables. Et pourtant, il n'était pas content de lui. Maud méritait quelque chose de mieux que cela. Comme il avait été bête de boire tant de vin la veille au soir. S'il était un jour en leur existence où il eût dû se montrer dans tout son avantage, c'était bien celui-là. Il était agité, il avait tous les nerfs en vibration. Il aurait donné n'importe quoi pour une cigarette, mais il ne tenait pas à sentir le tabac. En se rasant, il s'était fait une coupure et son nez avait des excoriations dues à une journée chaude sur le terrain de cricket. Quelle sottise d'avoir exposé son nez au soleil avant son mariage. Peut-être, en voyant cela, Maud ferait... Bon, il n'était guère probable qu'elle rompît, mais tout au moins, elle aurait honte de lui. Il fit tant que ce malheureux nez le jeta dans une sorte de fièvre. « Vous avez perdu votre couleur, Cross, » dit son garçon d'honneur. « J'étais justement en train de me dire que c'était vrai pour mon nez. Vous êtes bien bon de me tenir compagnie. »« C'est bon, nous irons de compagnie jusqu'au bout. » Hale était un homme prompt au découragement, quoiqu'il fût le plus loyal des amis, et il tenait un langage déprimant. Son air sombre, la pluie londonienne, l'agacement que comporte la circonstance, tout cela se réunissait pour rendre Frank de plus en plus malheureux. Heureusement, Jack Selby entra dans la pièce comme un rayon de soleil. La vue de sa figure fraîche et souriante, à moins que ce ne fût un souvenir de Maud qu'il y retrouvait, fut pour le fiancé une consolation. « Comment allez-vous, Cross? Et vous, Hale ? « Excusez mes façons de campagnard. Le vieil arbre de Noël du vestibule voulait vous envoyer chercher, mais je connaissais votre numéro. Vous avez un peu de verre autour des ouïes, vieux camarade. »« J'ai un peu mal aux cheveux aujourd'hui. »« C'est ce qu'il y a de pire dans ce champagne à bon marché. Cela ne vaut rien pour les jeunes gens de veiller tard. Prenez avec moi un soda au whisky. Non ? Hale, il faut le remonter, car tout le monde vous tombera dessus si vous n'amenez pas votre homme en belle forme. Il est certain que nous avons bu hier soir comme des trous. Vous n'avez pas pu venir à bout de votre déjeuner, moi non plus. Une fraise et un seau de soda ?
Comment va-t-on au Logham ? Demanda vivement Frank.
Oh, superbement ! Du moins, je n'ai pas vu Maud. Elle fait ses préparatifs pour la parade. Mais maman a trop d'avoine. Il nous a fallu lui serrer le mors d'un cran. Autrement, impossible de la tenir. Les yeux de Franz se portèrent sur l'aiguille des minutes qui se mouvait avec lenteur. Il n'était pas encore 10 heures.
N'êtes-vous pas d'avis que je pourrais faire un tour au Logham et les voir ?
Grand Dieu, non. C'est contraire à tous les règlements. Tenez-lui la tête, Hale. Voyons, mon garçon, de la fermeté.
Ça ne convient pas, Cross, vraiment, ça ne convient pas, dit Hale d'un ton solennel.
Quelle bêtise! Me voilà ici à ne rien faire, alors que je pourrais aller lui tenir un peu compagnie. Prenons un cab.
Doucement, mon petit, doucement! Tenez-le en main, Hale, tenez-le court.
Frank se jeta sur un fauteuil et maudit tout bas les sottes conventions.
On n'y peut rien, mon garçon, c'est correct.
Du nerf, Cross, du nerf. Nous mènerons l'affaire grand train quand nous nous y mettrons. Deux de nos jeunes vont venir, deux types de première force et tous deux pleins de sang. Nous peindrons le Logham en beau rouge solferino quand la revue de l'église sera passée.
Frank était assis, l'air assez maussade, l'œil fixé sur la lente aiguille des minutes, écoutant les propos légers de ce gamin de lieutenant et les réponses plus graves de son garçon d'honneur. À la fin, il se leva brusquement, prit son chapeau et ses gants.
« La demi, dit-il, allons. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Il faut que je fasse quelque chose. Il est temps de nous rendre à l'église. »«
En route pour l'église, cria Jack. Attendez un instant, je connais ce jeu-là. J'ai été garçon d'honneur déjà le mois dernier.
Inspectez son équipement, Hale. Assurez-vous qu'il est conforme au règlement.
L'anneau ?
C'est bien. L'argent pour remettre au curé ?
Très bien.
Menu monnaie ?
Bon.
Par le flanc droit, pas accéléré. »
Frank eut bientôt retrouvé son entrain, maintenant qu'il avait quelque chose à faire.
Même la course en cab, par les rues ruisselantes, avec le battement de la pluie sur la capote de leur véhicule, n'était plus capable de le déprimer. Il s'éleva au diapason de Jack Selby et ils babillèrent gaiement ensemble.
« N'avons-nous pas fini par le mettre en forme pour le combat ?» s'écria Jack, enthousiasmé.
« Cela prouve que tout le mal que nous nous sommes donné pendant ces dernières 24 heures n'est pas perdu.
Voilà le genre qui me plaît. Voilà le genre qui me plaît, dur comme un caillou. On ne les achète pas comme ça, il faut les élever. C'est un crack de premier ordre et plein de feu. Nous voici sur le terrain. » C'était une église basse, d'aspect antique, grise, avec un porche gothique, flanqué de deux niches et qui rappelait le siècle qui précéda Luther. Des boutiques de détaillants modernes l'entouraient de toutes parts et faisaient ressortir l'air digne à la fois et singulier de la vieille façade. La porte latérale était ouverte. Les trois jeunes gens entrèrent dans l'intérieur sombre, meublé d'hautes stalles sculptées avec d'anciens vitraux aux riches couleurs. D'énormes solives de chêne noircies se recourbaient au-dessus de leurs têtes et sur les murs s'enlaçaient, se tordaient des inscriptions à demi effacées en latin médiéval. Il semblait qu'un seul pas eût suffi aux arrivants pour les transporter dans l'atmosphère du XIXe siècle dans celle du XVe.
« Cette église est vieille que c'en est crevant, » dit Jack à demi-voix. « Ça ne s'achète pas. Mais c'est aussi gai qu'une glacière. » Voici un indigène qui arrive par l'aile. C'est votre homme, Hale, si vous tenez à avoir des nouvelles.
Le sacristain n'était pas de très bonne humeur.
C'est pour 4 heures moins le quart, dit-il, quand Hale l'eut abordé.
Non, non, à 11 heures.
À 4 heures moins le quart, vous dis-je, c'est le curé qui l'a dit.
Mais ce n'est pas possible.
Nous en avons à toutes les heures.
Nous en avons de quoi ?
Des enterrements.
Mais il s'agit d'un mariage. Alors, veuillez m'excuser, monsieur. En vous voyant, j'ai cru que vous étiez venu pour assister aux funérailles de l'enfant. Grand Dieu, non. Il y avait quelque chose dans votre air, monsieur. Mais maintenant que je peux voir la couleur de vos habits, naturellement, je comprends de quoi il s'agit. Il y a trois mariages, lequel est-ce? Les noms sont Cross et Selby. Le sacristain consulta un vieux calepin tout froissé. Oui, monsieur, je le vois ici. Milord ou Miss Cross et Milord ou Miss Selby. 11 heures, monsieur, 11 heures précises. Le curé est d'une ponctualité terrible et je vous conseillerais de prendre vos places. Quelque chose qui ne va pas? Demanda Frank d'une voix agitée quand Hale fut de retour. Non, non. De quoi parlait-il? Oh, rien, une légère confusion dans les idées. Montons-nous? Oui, je crois que cela vaut mieux. Leurs pas résonnèrent et furent répétés par l'écho dans l'église déserte pendant qu'ils se rendaient dans l'aile. Ils s'arrêtèrent tout décontenancés devant la grille. Frank se fouillait pour s'assurer qu'il avait bien l'anneau dans sa poche au ticket. Il prit aussi un billet de 5 livres et le mit dans un endroit où il était sûr de mettre aisément la main. Alors il fit brusquement demi-tour, le rouge à la figure, car une des portes latérales venait de s'ouvrir à grand fracas. Une grosse ménagère entra, portant un seau de fer blanc et un chiffon. Une grosse ménagère entra, portant un seau de fer blanc et un chiffon. On s'est trompé d'oiseau cette fois, dit tout bas Jack en se divertissant du changement de physionomie de Frank. Mais presque en même temps, les Selby entrèrent par l'autre extrémité de l'église. Mr. Selby, avec sa face rouge et ses abondants favoris, donnait le bras à Maud. Elle avait l'air bien pâle, bien douce, les yeux baissés, une expression solennelle sur les lèvres. Derrière elle venaient sa sœur cadette Marie et sa jolie amie Nelly Sheridan, l'une et l'autre en robe cramoisie, en large chapeau cramoisi avec des plumes blanches frisées. Quant à la fiancée, elle portait ce costume de voyage gris qui était déjà bien connu de Frank grâce à la description faite dans la lettre de sa fiancée. La nuance douce et la tendresse grave qu'exprimait la figure de Maud faisaient un effet charmant. Derrière les jeunes filles s'avançait la mère, encore jeune et élégante, et ayant dans son extérieur, dans son port, quelque chose de la grâce de Maud. Comme le groupe suivait l'aile, Frank ne put se contenir plus longtemps. « Tenez-lui la tête !» dit Jack à Hale d'une voix agitée, à peine baissée, mais leur homme était déjà parti à grands pas pour serrer la main de Maud. Il marcha à la droite et en se disposant en deux petits groupes, le recouple au milieu. Au même instant, le tintement sonore de l'horloge de l'église se fit entendre au-dessus d'eux et le curé, secouant les épaules pour mettre en place son surplis blanc, sortit tout affairé de la sacristie. Pour lui, tout cela était la chose du monde la plus ordinaire, la plus banale, la plus insignifiante, et Frank et Maud furent également ébahis de voir de quelle façon nonchalante il portait un livre de prière et avec quelle rapidité il se mit à expédier la cérémonie. Dans tout cela, il n'y avait rien qui, pour eux, ne fût solennel, d'une importance extrême, en sorte qu'ils s'étaient attendus à voir dans le rite quelque chose de mystérieux, d'accablant, et voilà qu'ils se trouvaient devant ce petit homme pressé, évidemment enrhumé du cerveau, qui les liait l'un à l'autre, de l'air entendu d'un épicier qui ficelle ensemble 2 paquets. Après tout, il lui fallait faire cette besogne 1 000 000 de fois par an, et on ne pouvait exiger qu'il se montrât follement ému. Le bizarre office leur fut lu avec ses exhortations, ses explications parfois pleines de gravité, parfois belles, parfois choquantes. Puis le petit curé, s'adressant à Frank, « Veux-tu prendre cette femme comme épouse légitime pour que vous viviez ensemble selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Veux-tu l'aimer, la réconforter, l'honorer dans la maladie comme en santé et renonçant à tout autre, t'attacher uniquement à elle aussi longtemps que vous vivrez l'un et l'autre ?»« Je le veux !» dit Frank avec conviction. « Et toi, veux-tu cet homme comme époux légitime pour vivre ensemble selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Veux-tu lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder ?» dans la maladie comme en santé, et renonçant à tout autre, te garder uniquement pour lui, aussi longtemps que vous vivrez l'un et l'autre ?»«
Je le veux !» dit Maud du fond de son cœur.
« Qui donne cette femme en mariage à cet homme ?»«
Je la donne, moi, Mr. John Selby, son père. »
Et ils répétèrent à leur tour les paroles décisives.
« Je te prends pour t'avoir et te garder à partir de ce jour, dans la bonne fortune, dans l'adversité, riche ou pauvre, en santé ou en maladie, pour t'aimer, te chérir, t'obéir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu, et de cela je te donne ma foi. »«
L'anneau, l'anneau !» dit Hale.
« L'anneau au grand bêta !» dit à demi-voix Jack Selby.
Frank mit violemment la main dans toutes ses poches. L'anneau était dans la dernière de celles qu'il fouilla. Mais impossible de trouver le billet de banque. Il se rappela qu'il l'avait mis dans un endroit sûr. Où pouvait-il donc être? Dans sa bottine ou dans la doublure de son chapeau? Non, il n'avait pu faire une chose aussi sotte. Et il recommença à fouiller ses poches des deux mains. Ce fut un temps d'arrêt terrible pour la cérémonie.
« Sacristie ?» « Après !» dit à demi-voix le clergyman.
« Ah, voilà !» dit Frank haletant. Il avait fini par le retrouver, après une fouille dernière et désespérée, dans le gousset de son gilet, un endroit où jamais il ne mettait rien. Naturellement, c'était pour ce même motif qu'il avait mis là, afin qu'il y fût seul, bien sous sa main. L'anneau et le billet de banque furent tendus au curé, qui escamota prestement le second et rendit le premier. Alors Maud tendit sa petite main blanche et Frank fit glisser le cercle d'or sur le troisième doigt. « Avec cet anneau, je t'épouse, » dit Frank, « et avec mon corps, je t'adore. » Il s'arrêta pour faire mentalement une correction, « et aussi avec mon âme, et je te dote de tous mes biens en ce monde. » Puis on dit une prière. Après quoi, le curé réunit les deux mains, la main musclée, bronzée par le soleil, et la mignonne main blanche sur laquelle brillait l'anneau tout neuf. Ce que Dieu a unis ensemble, que personne ne les sépare, attendu que Francis Cross et Maud Selby ont consenti à s'unir par les liens sacrés du mariage et en ont rendu témoignage devant Dieu et devant cette réunion, et qu'ils ont par là donné et engagé leur foi et ont confirmé cette déclaration par le don d'un anneau et par leurs mains unies, je proclame qu'ils sont mari et femme. Enfin, ça y était, c'était fini. Ils étaient unis pour ne plus jamais se séparer avant le jour où le couvercle de la bière se fermerait sur l'un ou sur l'autre. Maintenant, ils étaient à genoux. Le curé débitait rapidement des psaumes et des prières. Mais l'esprit de Frank était bien loin du rituel. Il regardait de côté la créature gracieuse, jeunette, qu'il avait à côté de lui. Sa belle chevelure tombée sur son cou blanc et sa tête baissée avec respect ravissaient le regard de Frank. Elle, si douce, si humble, si bonne, si belle, elle était tout à lui. Elle avait juré d'être pour toujours la compagne de sa vie. Un flot de tendresse pour elle lui monta au cœur. Il avait toujours eu un amour passionné, mais en ce moment, c'était un amour héroïque, terrible dans son oubli de soi-même. Il se souhaitait de lui apporter le bonheur, le plus grand bonheur que pût désirer une femme. Mais s'il était destiné à la rendre malheureuse, à lui faire perdre quoi que ce fût de sa beauté et de sa bonté, oh, alors, il demandait à mourir sur l'heure, en ce moment suprême où il était agenouillé près d'elle, devant la balustrade de l'autel. Sa prière était si fervente qu'il leva les yeux vers l'autel d'un air résigné, comme s'il s'attendait à une catastrophe imminente. Mais tout le monde s'était levé, l'office était terminé. Le curé prit la tête et tous le suivirent à la sacristie. Il y eut autour d'eux un murmure général de félicitations et d'approbation. « Mes compliments les plus sincères, Cross, » dit Hale. « Bravo, Maud, vous avez été épatante !» s'écria Jack en embrassant sa sœur. « Par Jupiter, c'est parti droit comme un cheval au signal du starter. » « Vous allez signer ici et ici, » dit le curé, « et les témoins, ici et ici. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite toutes sortes de bonheur. Nulle autre formalité ne m'oblige à vous retenir plus longtemps. » Et ce fut ainsi que, sous l'empire d'une singulière sensation comme celle d'un rêve, Franck et Maud se retrouvèrent, traversant l'aile, lui très fier, très droit, elle très douce, très intimidée, pendant que l'orgue tonnait la marche du mariage. Des voitures attendaient. Franck fit monter sa femme, monta après elle, et ils s'éloignèrent, suivis du murmure sympathique d'un petit groupe de badauds qui s'était formé sous le porche, tant par curiosité que pour s'abriter de la pluie. Maud s'était plus d'une fois promenée en voiture avec Franck, mais cette fois-ci, elle se sentit tout à coup gênée, intimidée. L'office du mariage, avec les sous-entendus de ses allusions, de ses exhortations, l'avait abattue et effrayée. Elle osait à peine lever les yeux vers son mari, mais il la tira bientôt de cette crise de gravité. « Votre nom, s'il vous plaît ?»«
Oh, Franck !»«
Votre nom, s'il vous plaît, à vous ?»«
Mais vous le savez bien !»«
Dites-le !»«
Maud !»
Est-ce tout ?
Maud Cross. Oh, Franck !
Oh, ma chérie, comme cela sonne grandiosement ! Oh, Maud, comme il est charmant ce vieux univers ! N'est-ce pas joli de voir tomber la pluie ? Et les pavés n'ont-ils pas quelque chose d'attrayant ? N'est-ce pas que tout est splendide et ne suis-je pas le plus vénard ? Oui, j'ai une veine incroyable, le plus vénard des hommes. Chère petite, donnez-moi votre main. Je puis la sentir sous votre gant. Maintenant, ma charmante, vous n'avez pas peur, n'est-ce pas ?
Maintenant, non.
Vous avez eu peur ?
Oui, un peu. Oh, Franck, vous ne vous lasserez jamais de moi, n'est-ce pas ? Si vous le faisiez, je mourrais de chagrin.
Me lasser de vous, grand Dieu ! Vous ne devineriez jamais ce que je faisais pendant que le curé nous faisait part de ce que saint Paul disait aux Colossiens et le reste.
Je sais parfaitement ce que vous faisiez et vous n'auriez pas dû le faire.
Qu'est-ce que je faisais donc ?
Vous ne faisiez que me regarder.
Ah, vous avez vu cela, n'est-ce pas ?
Je le sentais.
Eh bien, c'était vrai, mais je priais en même temps.
Est-ce bien vrai, Franck ?
Lorsque je vous ai vue agenouillée là, si douce, si bonne, il m'a semblé que je comprenais comment vous m'aviez été donnée en garde pour la vie, et je priais de tout mon cœur pour que, si je devais jamais vous faire tort en pensée, en parole ou en action, je tombe mort à l'instant avant d'avoir le temps de le faire.
Oh, Franck, quelle prière terrible !
Mais je le sentais, c'était mon désir, je ne pouvais m'en empêcher. « Ma chérie, vous n'êtes pas autre chose qu'un ange incarné, la créature la plus douce, la plus sensible, la plus belle qui vive, qui marche sur terre. Plaise à Dieu que je vous conserve telle, que je vous fasse, si c'est possible, toujours plus élevée, et si jamais je dis un mot, si j'accomplis un acte qui semble vous abaisser, alors rappelez-moi le moment présent. Ordonnez-moi de reprendre l'existence conforme à notre idéal le plus haut. » De mon côté, je ferai effort pour me perfectionner, pour mettre ma vie à l'unisson de vous, pour combler le vide qui existe entre nous et pour ne pas me sentir absolument indigne de notre amour. Ainsi, nous agirons et réagirons l'un sur l'autre. Nous deviendrons sans cesse meilleurs et plus sages et nous daterons du jour de notre mariage ce qu'il y aura de meilleur, de plus brillant dans nos intelligences et dans nos âmes. Et voilà l'idée que je me fais d'un office de mariage. Ici se termine la première leçon. Les vitres sont brouillées par la pluie et au diable le cocher. Ce serait bien dur qu'un mari ne puisse embrasser sa propre femme, ma chérie. Un chapeau à large bord, avec une plume frisée, n'a guère la forme favorable pour circuler en voiture avec un ardent jeune marié dans une voiture dont les vitres sont discrètement brouillées par la pluie. Franck donna la preuve du fait et il leur fallut employer tout le temps du retour au Logham pour remettre en place toutes ses épingles. Puis, après un repas anormal qui tenait à la fois d'un déjeuner très tardif et d'un lunch très prématuré, ils remontèrent en voiture pour la gare Victoria d'où ils devaient partir pour Brighton. Jack Selby et les deux prodiges du régiment,
qui aurait assuré l'immortalité au jeune couple s'il suffisait pour cela de boire de grands coups en portant des santés, s'était approvisionné de paquets de riz, de vieilles pantoufles et autres projectiles consacrés par le temps. Mais sur un signe de Maud qui fit entendre qu'elle préférait un départ sans fracas, Franck réussit à ramener le trio dans la salle à manger grâce à son air innocent. Puis il ferma la porte à clé sur eux, donna la clé et un demi-souverain au premier garçon en lui recommandant de ne rendre la liberté aux prisonniers qu'après le départ de la voiture. Incident qui permettrait à un judicieux observateur de dire que maître Franck Cross faisait preuve, à l'occasion, de qualités capables de le mener loin dans la vie. Aussi s'embarquèrent-ils sans bruit, sans fanfare, pour leur premier voyage, pour ce voyage qui devait inaugurer la traversée de leur vie et dont nul homme ne connaît le terme.